Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, merci d'être là depuis le début. Si vous êtes là depuis le début, nous sommes ensemble jusqu'à 11h à suivre. Eva Rock, elle est déjà dans ce studio pour son zapping du lendemain spécial icône du cinéma. Et Bertrand Chamerois pour son écran de veille avec une bonne nouvelle, m'a-t-il dit, à l'intérieur. Notre invité, c'est François Reinhardt, écrivain et journaliste, pour son livre La grande histoire des nouveaux mondes qui nous emmène jusqu'en Océanie. Elle n'ira pas jusque-là, mais quand même, Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, le retour très attendu lui aussi d'Eddie Depreto, Angèle Chevalier va nous faire découvrir son nouveau single, et puis de l'humour avec le spectacle de Manu Payet. C'est Louise Bernard qui va nous en parler en détail. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe, vous êtes très sur le quintet, hein. C'est Angèle Châtelier, pas Chevalier.
Oui, vous avez absolument raison. Merci de votre rectification.
Mais je vous en prie, je serai toujours la peine.
Le cheval a eu raison de vous.
C'est l'heure de votre écran de veille. Et Bertrand, vous m'avez dit, j'apporte une bonne nouvelle.
Exact, elle m'a été révélée par l'émission Ensemble, c'est mieux. Un programme qui, contrairement à ce que son nom laisserait penser, ne parle pas d'échangisme, mais de solidarité, d'initiative, de vie quotidienne. Une émission 100% service et bonne humeur, c'est la promesse, diffusée du lundi au vendredi à 10h50 sur France 3 et ses antennes régionales, à chacune sa déclinaison. Et petit jeu, à vous de trouver quelle édition régionale j'ai regardé. Attention, c'est pas évident. Indice avec le témoignage de cet invité.
Quelques jours avant la Noël, je suis allée à la foire au Santon et j'ai voulu acheter le Santon de notre héros national, c'est-à-dire le professeur Raoult.
Bah c'est Marseille.
Mais oui, évidemment.
La Noël.
La Noël, le Santon du professeur Raoult, hein, qui, à part eux, considère professeur Raoult comme un héros national. La légende raconte d'ailleurs que dans les crèches marseillaises, le Santon du professeur remplace celui du divin enfant. À Marseille, le réveillon de Noël, c'est le 13 mars. Ils sont en 68 après Didier Raoult. Bref, je m'égare. Venons-en à la bonne nouvelle dont je parlais. Je précise qu'il n'est pas question de foot.
Les Français sont les champions du monde.
On est champions du monde ! Pas une bonne nouvelle, ça ? Ah putain, quel pied ! Elle démarre super bien cette année. Attends, Eva. On se calme. Range tes confettis et pose ce magnum de champagne immédiatement. Ne t'emballe pas. Attends de savoir de quoi nous sommes champions du monde avant de remonter les Champs-Élysées en hurlant.
Les Français seraient le peuple le plus râleur au monde. Nous nous plaignons 15 à 30 fois par jour.
Et un chiffre qui monte jusqu'à 2849 fois par jour sur CNews. La France championne du monde de râlerie, tu m'étonnes. Plus qu'un sport national, c'est un don chez nous. Hein. Jamais je me ferai vacciner, jamais. Mais il arrive quand le vaccin, c'est long. Mais de toute façon, je me ferai pas vacciner, on sait pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est quand même long à venir. Et les autres pays se reconfinent et nous on fait rien, c'est un scandale. Comment ça, un possible reconfinement? Mais moi je veux pouvoir sortir de chez moi quand je veux, je tiens à mes libertés. Bouh, cette émission est nulle, mais je la regarde quand même jusqu'au bout pour en dire du mal sur Twitter parce que c'est bon de râler. Oui, ceci dit, râler présente des bénéfices. Dans l'émission, j'ai appris que ne pas contenir ses colères réduit les risques d'accidents cardiovasculaires.
Ah ben voilà.
Ne pas les contenir, oui. Une excellente nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon qui peut se vanter d'avoir un cœur de nouveau-né. J'ignore si vous le saviez, mais il existe d'ailleurs plusieurs mécanismes de râlerie, notamment celui-ci.
Si on est dans un modèle de râlerie automatique, on va capter que le négatif pour alimenter cette râlerie en permanence sans même qu'on s'en aperçoive au final.
Voilà, c'est ce que j'appelle déclencheur inconscient.
Ça, c'est le nom scientifique. Moi, j'appelle ça le syndrome grande gueule. Ouais. Sinon, il y a les causes de râlerie classiques sur le podium duquel... Les embouteillages, un exemple illustré dans le sujet par une bluffante interprétation de la colère au volant par les deux journalistes. Si l'Académie des Oscars nous écoute, arrêtez tout, stop everything, guys, la statuette des meilleurs acteurs, c'est à eux qu'elle doit revenir.
Ah, il va avancer celui-là, là, devant.
Arrête de râler, mon chéri, c'est pas bon pour ce que t'as.
Non, c'est pareil, ça. Ceci dit, ce serait génial si on s'engueulait comme ça. Et dis donc, espèce de zozo, baisse un peu le ton, non mais oh, c'est un peu fort de café, t'es complètement zinzin ou quoi? Il est toc-toc, lui. Alors, pourquoi Ensemble c'est mieux s'intéressait-elle à la râlerie hier? Bien, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes en janvier, c'est donc la période des bonnes résolutions. Après le dry January, qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant le mois, voici donc l'autre résolution à prendre en ce début d'année, selon France 3.
Arrêtez de râler, et ça fait du bien.
Bah oui, tiens, si on arrêtait de râler, c'est le bon moment en plus, hein, on n'a pas trop de raison de le faire. Nous sommes en 2021, après Jésus-Christ. Toute l'Europe reconfine et vaccine à tour de bras. Toutes ? Non. Car un pays peuplé d'irréductibles gaulois, emmené par Pad Strategix, résiste encore et toujours à la sortie de crise sanitaire. En parallèle, les camps de anti-vax, complotix, populix et cascouillus gagnent du terrain. Et comme si ça ne suffisait pas, le variant anglais du coronavirus se rapproche. Conseil des taxes a validé l'extension du domaine du fichage et le groupe Kyo a annoncé faire son grand retour en 2021. Et faudrait qu'on arrête de râler, donc ça va pas. Bon allez, on peut toujours essayer. En janvier, on arrête de picoler et on râle pas. en janvier, on devient des ficus en plastique.
Ah oui. Merci beaucoup Bertrand Chamerois. Puis la petite référence invisible à Houellebecq. L'extension du domaine du fichage, bravo.
Exactement.
Eva Rock, votre
zapping du lendemain. Moi, je continue à râler et je ne fais pas de dry January. Voilà.
De quoi de...
Je ne fais pas le dry et je continue de râler.
D'accord.
Le dry January.
Jeanne-Marie.
Oui. Votre zapping dans le main, ça nous va tout à fait. C'était juste pour le plaisir de vous le faire répéter. Eva, votre zapping du lendemain est consacré à un doc pour lequel vous avez eu un sacré coup de cœur.
Oui, et quel documentaire, une œuvre magistrale, signée Yves Geland et François Aimé, intitulée Charlie Chaplin, le génie de la liberté. C'est un portrait de 2h25, retraçant le parcours professionnel de Chaplin, sa vie privée, mais aussi 80 ans d'histoire du cinéma. Et le film fera référence parce que sa magie, elle tient d'abord au montage des archives et des extraits de films, au texte qui est extrêmement bien écrit et interprété par Mathieu Admaric, et évidemment par l'art de Chaplin qui continue de nous émerveiller. Alors, sauf si vous êtes expert S. Chaplin, ce qui peut arriver, mais vous devriez quand même apprendre beaucoup de choses, à commencer par l'origine de son costume et comment il a cherché à se vieillir.
Je ne savais absolument pas comment me maquiller. Je me dis que j'allais mettre un pantalon trop large. Je voulais que tout soit en contradiction. Le pantalon large et la veste serrée. Le chapeau trop petit et les chaussures trop grandes. Je choisissais une canne et je m'ajoutais une petite moustache pour me donner quelques années de plus.
Alors au fil des archives, vous allez voir comment Chaplin apparaît comme un être visionnaire, sûr de son talent artistique, moins sûr de lui quand il s'agit de parler de l'homme en dehors des studios, un être épris de liberté surtout, la liberté comme valeur essentielle, existentielle, et dans son travail aussi, d'où l'idée de créer ses propres studios. Il y tourne ses premiers longs métrages, comme La ruée vers l'or, et cette fameuse scène que vous connaissez sans doute, où on le voit manger sa chaussure. Une séquence pour laquelle il fallait une petite astuce.
Pour le tournage de cette scène, l'accessoiriste fait appel à un confiseur. La chaussure est en réglisse. Le nombre de prises est tel qu'on doit en fournir 20 paires. Les vertus laxatives de la réglisse ne laisseront pas indemnes les boyaux des deux comédiens.
Aïe, oh là.
Et oui. Alors Chaplin, au gré de ses films, va aussi délivrer un message politique qui pose un regard sur le monde et nous le donne à voir. Il résiste au cinéma parlant, au début, et continue à triompher d'ailleurs avec ses films muets. Et pied de nez ultime, quand il prend la parole sur l'écran, il invente une langue, comme dans Le Dictateur, dans lequel il ridiculise Hitler. Le Dictateur, un film tourné en 1939 par un Chaplin effrayé par l'avènement du régime nazi.
Chaplin, Hitler, 1889. Les deux hommes sont nés la même année, le même mois, la même semaine. Mais Chaplin a été célèbre bien avant Hitler. La première fois que j'ai vu Hitler avec cette petite moustache, confiera Charlie, je me suis dit qu'il m'imitait et qu'il profitait de mon succès. C'est vous dire si je suis imbu de moi-même.
Voilà, c'est une des anecdotes qu'on découvre dans ce film qui a nécessité 3 ans de travail, 11 mois de montage, un travail colossal qui transpire à l'écran. Je sais pas vous, mais moi, adolescente, j'ai eu la chance de voir Molière, le film d'Ariane Mouchkine sur le dramaturge. C'est avec elle et avec ce long métrage que ça m'a donné goût au théâtre, que ça m'a donné goût à Molière en particulier, et ça a surtout suscité ma curiosité littéraire. Et bien, en découvrant Chaplin, le génie de la liberté, j'ai repensé à l'effet que peut provoquer une œuvre, notamment sur un jeune public. Alors oui, ce film a toute sa place dans les écoles, et cette musique aussi qu'il a composée.
J'ignorais totalement, c'est lui qui faisait ses musiques.
Oui, Chaplin faisait ses musiques parce qu'il était aussi compositeur. Alors compositeur à l'oreille, il avait besoin ensuite de quelqu'un pour retranscrire ses partitions. Mais voilà, c'est lui qui imaginait ses notes. Un cinéaste hors norme dont le portrait est à voir ce soir sur France 3 dès 21h05.
Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chamerois. À demain à tous les deux. Dans un instant, notre invité c'est l'écrivain François Reinhardt, mais d'abord musique avec Kimber Rose.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour François Reinhardt.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste, chroniqueur emblématique de l'Obs, c'est presque historique peut-on dire. Vous avez également publié de nombreux ouvrages et depuis une dizaine d'années, vous faites un carton en librairie avec vos livres d'histoire revisités. Ça avait commencé avec Nos ancêtres, les Gaulois et autres fadaises chez Fayard, qui a donné lieu à des déclinaisons, mais également La grande histoire du monde, La grande histoire du monde arabe, La grande histoire de l'Asie et désormais La grande histoire du Nouveau Monde. J'ai enlevé le bandeau, mais il était sous-titré Amérique, Océanie. L'idée, en gros, c'est de déconstruire les clichés, par exemple pour l'Océanie. Océanie. Les clichés, c'est les aborigènes, les vainés, les cocotiers. Pour l'Amérique, quels sont les clichés qu'il faudrait déconstruire ?
Alors, déjà, quand on dit pour l'Amérique, là, j'imagine que vous pensez Amérique du Nord. Donc, déjà, le premier cliché.
Non, j'ai lu votre livre, donc je sais. Je l'ai lu, donc je sais qu'il y a
le. Pardon, les auditeurs pensent. Voilà. Quand on dit l'Amérique, on pense à Trump ou à Lincoln. Alors que, en fait, le premier cliché, tout simplement, c'est que l'Amérique, c'est un continent dans lequel il y a des mondes différents. Hein. Il y a d'une part l'Amérique du Nord, mais l'Amérique du Nord avec ce truc compliqué qui est que le Mexique, par exemple, ça c'est un cliché dans la tête des gens. Le Mexique, c'est un pays d'Amérique du Nord. Il ne faut pas dire un Mexicain qu'il est d'Amérique du Sud. Bon. Et l'Amérique latine qui est un autre monde. Hein. C'est deux histoires très séparées. Il y a une Amérique anglo-saxonne et une Amérique espagnole, hispanisante, qui ont des histoires très, très différentes et passionnantes toutes les deux.
Alors, vous revisitez l'histoire. On a l'habitude de dire que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. On connaît ce reproche. Mais comment pourrait-il en être autrement quand on sait que beaucoup de ces peuples dont vous parlez, notamment les Mélanésiens, n'avaient pas l'usage de l'écriture?
Oui, alors ça, j'essaie de pratiquer.
On endosse malgré nous le rôle de méchant.
Alors, en tout cas, j'essaie de pratiquer ce que font aujourd'hui les historiens. On appelle ça la global history, l'histoire globale, c'est-à-dire on essaie de multiplier les points de vue. Et effectivement, pendant très longtemps, là, vous parlez de l'Océanie, on l'a vu à travers le regard des premiers voyageurs, Bougainville, Cook au XVIIIe siècle. Ils vont visiter ces îles, ils en font l'image du paradis. Hein, Bougainville, qui était allé à Tahiti, il appelait ça Citerre, c'était l'île de l'amour, etc., merveilleux. Et en fait, il y a des tas d'historiens, d'ethnologues, de sociologues, etc., qui travaillent sur le regard inverse. Effectivement, sur l'Océanie, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de traces écrites et il y a peu de monuments en pierre. Hein. Contrairement les Incas, les Aztèques, au moins on peut connaître tout ça grâce à leurs monuments. Là, c'est beaucoup plus difficile, mais on y arrive quand même par justement le travail. Il y a quelque chose qui s'appelle par exemple l'ethno-histoire. Hein. On remonte sur les récits oraux et on essaie de voir dans les récits oraux de l'Océanie, du Pacifique, il y a toujours l'ancêtre mythique qui est arrivé sur cette île, parce que l'Océanie s'était peuplée un peu à la fois. Il y a toujours un récit, donc on va voir ce récit-là, on essaie d'étudier, on comprend et on arrive à apprendre des choses absolument passionnantes.
Et je dois dire que c'est absolument passionnant, on en parle un peu de manière docte, mais c'est vraiment, ça se lit très très facilement et surtout c'est page-turner. Première partie du livre est consacrée aux Amériques au pluriel, vous avez raison de le dire, du Sud, du Nord. Vous racontez les civilisations qui sont succédées autour de ce qui est devenu le Mexique, les traits culturels communs, par exemple la pyramide à degrés, les sacrifices humains, la culture du cacao, le calcul en base 20, mais aussi, et là je suis tombé de ma chaise, un jeu de balle très ritualisé, une sorte de foot. C'était quoi ce jeu de balle?
Oui, alors c'est extraordinaire parce qu'encore aujourd'hui, quand on va visiter les sites, ce qu'on appelle les Mésoamériques, effectivement c'est disons Amérique centrale et le Mexique à peu près, et là dans les sites aztèques mais aussi dans les sites mayas, on trouve toujours quelque chose qui ressemble à un stade, ça veut dire il y a une pelouse disons, et autour des gradins, on les voit encore dans certains endroits, et là-dedans on jouait un jeu de balle. Il y avait deux équipes qui sont face à face et effectivement il y a une balle en, je ne sais pas en quelle matière c'était fait, c'était pas en caoutchouc, mais enfin encore qu'il y avait l'usage du caoutchouc, mais et on la pousse avec les hanches et on la pousse avec les avant-bras. On n'a pas le droit de toucher autrement.
Mais comment alors, on sait? Où est-ce que vous avez trouvé les règles du jeu?
Là, on le sait parce que ça a été pratiqué longtemps encore après. C'est-à-dire que quand les conquistadors sont arrivés, ils ont dominé le pays, mais ils n'ont pas tout empêché. Ouais. Il y a des tas de choses qui leur ont été racontées. Donc là, il y a les missionnaires, etc., qui expliquaient ce qui se passait. Et dans ces jeux de balles, alors je crois qu'il pouvait arriver que l'équipe qui perdait, ils étaient sacrifiés, donc c'est quand même moins drôle. Mais en tout cas,
ah oui, c'est moins drôle.
C'était commun à toutes ces sociétés qui ont des noms, hein, les Olmecs, les Aztèques, ouais, les Mayas, tout ça. Tout ça, il y a une même sphère culturelle, voilà, qui est dans les, entre autres caractéristiques, ce jeu de balle avec les hanches.
Vous ne sacralisez pas ces sociétés, vous racontez les sacrifices humains où parfois il y avait des dizaines de milliers de prisonniers qui étaient offerts en holocauste les uns après les autres. C'est absolument dingue. L'Empire Inca, par exemple, à un moment donné, s'étendait tout au long de la cordillère des Andes, c'est-à-dire de l'actuel Chili au Pérou en passant par la Colombie, grâce notamment à un chemin long de 20 000 km qu'il parcourait à pied. Il ne connaissait pas les animaux de trait, par exemple. Et là, vous citez la grande spécialiste de cette société, Carmen Bernard, qui voit là cette route de 20 000 km.
Carmen Bertrand, je crois.
Carmen Bertrand, ouais. Bertrand, vous avez raison, qui voit là l'ouvrage le plus remarquable du 15e siècle. Vous êtes certain? Parce que quand même, au 15e siècle, la cathédrale Notre-Dame était terminée il y a plus d'un siècle. Parle pas de Venise. Au même moment, en Europe, il y avait Léonard de Vinci et Michel-Ange. Et là, on se dit quand même, est-ce qu'il n'est pas un peu trop proche de son sujet?
Alors, en tout cas, je cite une spécialiste, mais en tout cas, ce réseau routier de l'Empire Inca qui partait dans les quatre directions, hein, c'était extraordinaire et ça permettait.
Oui, j'ai compris, mais c'est jamais qu'un chemin.
Non, pas du tout. On est dans les Andes, donc il y a des tas d'endroits où c'est une route qui est faite avec des ponts suspendus de manière qui sont extraordinaires. Et puis l'autre chose qui est extraordinaire, c'est que les Indiens ne connaissaient ni les animaux de trait, comme vous le disiez, il n'y en avait pas, on n'y avait pas de chevaux, ou de vaches, ou de choses comme ça. Et puis par ailleurs, ils ne connaissaient pas non plus la roue. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur ce chemin, il y avait des messagers qui parcouraient. L'Inca à l'empereur, quand il donnait un ordre, cet ordre était compris rapidement parce que des messagers partaient immédiatement sur cette route et toutes les 30 km, je crois, ou tous les 90 km, je ne sais plus, en tout cas, ils avaient un petit sifflet ou une petite cloche, ils avertissaient de leur passage et à ce moment-là, il y avait un autre messager qui prenait et les messagers allaient beaucoup plus vite qu'en Europe à la même époque.
Je viens d'entendre un petit sifflet, une petite cloche qui me dit qu'il y a Hélène Manarino qui se prépare. Vous restez avec nous, Culture Média continue. C'est tout de suite le portrait inattendu avec François Reinhardt.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de François Reinhardt, la grande histoire des Nouveaux Mondes s'est consacrée à l'Océanie et aux Amériques. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Vous êtes à distance, vous êtes chez vous, vous êtes un tout petit peu souffrante et on a voulu ne prendre strictement aucun risque, mais ça va très très bien, vous nous le confirmez.
Oui, ça va, je reviens vite, voilà.
Je suis très heureux et c'est le portrait inattendu de François Reinhardt par Hélène.
Bonjour François Reinhardt, bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Fanfan, Fanfou, F-fou, Uncle Hops, on va voyager ce matin. Et oui, un petit tour du monde. Alors, je sais que vous êtes aéroportophobe, c'est-à-dire que vous avez la phobie des aéroports. Joli paradoxe pour un homme qui connaît le monde par cœur quand même. Alors, François Reinhardt, vous continuez à apprendre l'espagnol. D'ailleurs, vous avez même une application qui vous sert à faire des listes. Dès le matin, vous ajoutez vos nouveaux mots de vocabulaire. Mais on peut dire que quand vous faites quelque chose, vous y allez à fond. Pour l'espagnol, vous avez été capable de faire une formation à l'Institut Cervantes à Valence.
Voilà. Olé.
Et aujourd'hui... Je sors ma cape. Aujourd'hui, vous vous posez la question si vous allez apprendre l'allemand ou le japonais. Alors, curieux de tout, du monde qui vous entoure, vous avez l'habitude, François Reinhardt, de piquer une habitude, une coutume du pays que vous visitez. Cela vient de votre maman, qui était professeure d'anglais, et qui, lorsqu'elle vous emmenait en Angleterre, elle vous demandait d'aller discuter avec les enfants anglais de votre âge pour apprendre la langue et leurs habitudes. Et si vous le faisiez, on récompense une petite pièce.
Oh là là, vous avez eu beaucoup de pièces.
Bah, j'ai bien appris.
Alors la question, qu'avez-vous piqué des autres? Vous gardez systématiquement le même sachet de thé par jour, vous remettez de l'eau à chaque fois, ça vient de Chine. Vous aimez mettre des t-shirts sous des chemises, c'est une mode que vous avez remarquée au Maroc. Vous vous savonnez toujours avant d'aller vous baigner, comme au Japon. En Espagne, vous restez très longtemps à table, évidemment, comme les Espagnols, et vous êtes capable de vous baigner dans l'eau très très froide à l'allemande. Même si votre plus beau souvenir, c'est quand vous avez été le chef de tribu, le chef des coutumes en Nouvelle-Calédonie.
Ça veut dire quoi, François Reinhardt? Bah, allez-y.
Ah bah, c'est parce que quand on va dans un village en Nouvelle-Calédonie qu'on appelle une tribu, en fait, il faut demander l'autorisation d'entrer. Et effectivement, il y avait tout un groupe d'écrivains qui étaient en Nouvelle-Calédonie l'année dernière avec moi, et il se trouve que j'étais le plus vieux. Donc c'était moi qui devais faire porter la coutume, comme on dit porter la coutume. Ça veut dire qu'il faut se présenter au village en disant, voilà, je vous demande de bien vouloir, mon groupe, c'est, je m'appelle comme ça, mais les gens autour de moi s'appellent comme ça, et je demande aux gens du village en face de bien vouloir accepter qu'on arrive dans le village, et le village rend la protection, et y a un échange de cadeaux, on et donne des cadeaux et ils rendent des cadeaux.
Et maintenant vous le faites tout le temps, comme dit Hélène?
Non, vous l'avez fait
ce matin, vous avez demandé l'autorisation d'entrer à Europa ou pas?
Bah, en tout cas, je trouve le procédé très sympathique, en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, parce qu'il faut demander à être accepté, mais quand on est accepté, on l'est. En Nouvelle-Calédonie, c'est comme ça.
Hélène.
Alors, vous avez quand même vos habitudes à vous, François Reinhardt. Celles de votre pays, qu'on va appeler le Reinhardt, tout simplement. Alors, dans votre pays à vous, oh oui, j'invente un pays ce matin, il y a du gingembre. Tous les matins, vous en mettez partout. Vous n'aimez pas gâcher. Au réveillon de Noël, vous avez demandé de faire un réveillon placard, c'est-à-dire avec les choses à manger qu'il reste dans le placard. Donc, il me semble qu'il y avait des graines. Pourtant... Vous êtes le roi du lapin au pruneau et du chili con carne ou chili con tono, c'est-à-dire avec du thon. Et maintenant, c'est du chili tout court. Le lapin que vous aimez cuisiner. Mais quand vous étiez petit, c'était votre animal de compagnie. Sauf que tous les ans, dès que vous partiez en vacances, il disparaissait. Et c'était un autre lapin qui débarquait dans votre maison. Mais vous, François, vous étiez persuadé que c'était le même lapin.
Et alors, vous êtes traumatisé, ça va mieux? Allongez-vous, racontez-nous.
Bizarrement, non, ça m'a jamais traumatisé. J'ai toujours fait la différence entre l'animal que j'aimais bien caresser et qui était
mon animal favori et celui que je mangeais.
Mais ça vous étonnait pas d'en voir un en septembre qui n'était pas celui du mois de juillet?
J'avais un vague doux. Oui, surtout qu'il était beaucoup plus petit, mais on me disait qu'il avait maigri pendant l'été. Voilà, je faisais avec ce mensonge.
Hélène.
Et c'est ça le monde des enfants. Alors François Reynard, vous êtes aussi un très bon pianiste. Vous donnez des cours de chant. Vous êtes le jukebox finalement que l'on a tous envie d'avoir. Vous êtes par exemple capable de jouer au piano juste un son que l'on fredonne. Vous êtes capable de reconnaître une chanson en quelques secondes. Et surtout, c'est vous qui animez les soirées. Vous vous mettez au piano et vos amis chantent ça. Par exemple.
Je suis celle que je peux inventer, que tu es là tout près de moi.
Et oui, poète parfois, l'une des phrases qui vous accompagne souvent, c'est celle d'un poète espagnol, Machado. Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Alors continuez de marcher à travers le monde, le vôtre et celui de tous.
Merci beaucoup Hélène, magnifique.
Merci Hélène, c'est magnifique. Je suis très ému, c'est très beau tout ça. Enfin, c'est très beau, c'est très gentil, c'est adorable.
Et sur le piano?
Alors sur le piano, oui, j'adore ça. J'ai toujours appris. Je sais pas quand j'ai appris le piano quand j'étais petit avec le côté les valses de Chopin, etc. Et puis et j'avais un prof qui avait fait des balles, qui faisait les qui animait les balles, etc. Il faisait des jeux et te montrer comment débrouiller, comment te démerder. Donc je rends grâce à ce professeur de m'avoir appris à me débrouiller. C'est-à-dire que si vous me dites joue-moi du Michel Berger, voilà, je fais du Michel Berger. Et moi, ce que j'adore, c'est pas de jouer, c'est que tout le monde chante autour de moi. Ça c'est la communion humaine. Il n'y a pas plus beau que ça.
D'accord, mais franchement, le même sachet de thé toute la journée, vous êtes sûr que c'est hygiénique?
Alors les Chinois disent qu'il faut le faire toujours 3 fois et que le meilleur, c'est le deuxième.
Merci de cette petite vanouille. Merci François Reynard. Vous restez avec nous, Hélène. À demain.
À demain.
Merci Hélène.
Dans un instant, il va être content, François Reynard, parce qu'on va encore parler musique avec notre premier indispensable, Angèle Châtelier. On va parler et on va entendre le tout nouveau single d'Eddie Depreto. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de François Reynard, dans un instant, François Reynard, on va parler musique avec Angèle Châtelier. À ce sujet, j'ai fait une découverte musicale grâce à vous. Vous avez donné une grande interview au journal régional Le Pays d'Auge. C'est votre coin de vacances, c'est là où vous écrivez vos livres.
Oui, c'est ça, c'est là où j'ai une maison, c'est le petit village où j'habite tout le temps.
Et Le Pays d'Auge vous demande quelle musique vous écoutez en voiture. Vous vous souvenez de votre réponse?
Alors, j'ai probablement dit de la musique espagnole, parce que j'écoute beaucoup de chanteurs espagnols.
Sarah Montiel.
Ah oui, grande chanteuse espagnole des années 50.
Je connaissais pas ce nom. Le journal vous demande ensuite ce que vous chantez sous la douche. On voit qu'on est dans l'enquête, pure et dure. Vous vous souvenez d'autres réponses?
Non.
Sarah Montiel, mais en charabia. Je voudrais savoir qui est Sarah Montiel.
Alors, Sarah Montiel, c'est à la fois une actrice qui a même fait des rôles à Hollywood, une actrice espagnole, des rôles à Hollywood, etc. Et en même temps, une grande chanteuse des années 50-60. Et quand on apprend l'espagnol, c'est très très bien, parce qu'elle a une diction très claire. Hein, parfaite et la un de ses titres le plus célèbre.
Non, ne le dites pas. Laissez-moi le dire parce que si vous en avez choisi un autre, on va être un peu dans la mouise. Ça s'appelle Donna Mariquita.
En el Madrid romántico no se oye otra canción. Mariquita, Mariquita, Doña Mariquita.
Et vous êtes ému, François Reynard, vous faisiez les yeux de crooner.
Mais oui, parce que j'adore l'élocution, la langue, on comprend tous les mots, quoi. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Mais elle était très rigolote. À la fin de sa vie, Almodovar était fou d'elle, etc. Parce qu'elle passait son temps à la télé espagnole, racontait des horreurs, elle racontait des histoires de cul, etc. Et les gens adoraient ça. C'était parce que Sarita Montiel, voilà, elle disait, je suis cachonda, ça veut dire, c'est un double mot qui veut dire à la fois rigolote et cochonne. Et elle faisait exprès de dire ça. Donc, elle faisait qu'elle était, elle jouait sur ce côté.
Merci beaucoup de cette anecdote parce que maintenant j'ai un enchaînement à faire et je dois me tourner vers Angèle Châtelier.
En espagnol, s'il vous plaît.
En espagnol. Cochonda, pas du tout. On va continuer à parler de musique avec vous, Angèle, et on va fêter un grand retour avec vous aujourd'hui.
C'est celui d'Eddie Depreto qui sort un nouveau titre aujourd'hui. On va l'entendre dans quelques instants, mais avant tout, Eddie Depreto, souvenez-vous, il s'est fait connaître grâce à ce tube.
Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille.
Kid, chanson issue de son premier album, c'était Cure, sorti en 2018, triple disque de platine, soit 300 000 exemplaires vendus. Alors ces deux dernières années ont été plus que prolifiques pour lui. Il a fait des centaines de dates en France. S'est même produit 10 fois d'affilée sur la scène parisienne, l'Élysée-Montmartre. Alors il a fallu accuser le coup quand même, prendre le temps de de se poser pour avoir des choses à écrire et sortir son deuxième album dans les mois qui viennent.
Volontairement, j'ai voulu prendre le recul, prendre la distance avec tout ce qui s'était passé sur le premier album. On a arrêté la première tournée en septembre 2019. Et donc je me laissais un an pour écrire, prendre le recul nécessaire, pour trouver la pertinence, l'innocence, l'envie de raconter les choses avec de la nouveauté, pas raconter comment ma vie a changé, comment j'ai évolué, mais raconter vraiment des choses un peu comme dans le premier album, des choses qui m'ont fait vibrer, qui me font aujourd'hui toujours me révolter.
Chaos, c'est la fête de trop. Moi je l'ai fait, des fêtes, et ça jusqu'au fiasco, c'est là.
Et qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous révolte vous en ce moment?
La situation, bien entendu, elle nous ramène tous à l'humanité dans le sens large, c'est-à-dire comment on va passer en termes collectifs, comment on va tenter de passer au-delà de ça, comment on va tenter de trouver la positivité là-dedans, comment on va trouver le sourire. Donc il y a un peu ça, ce truc de on va être plus fort, on peut s'en sortir, on va s'en sortir, on est ensemble, on est encore plus proche que jamais, on va en découdre et c'est pas ça qui va nous arrêter. C'est un album que je voulais un peu plus positif.
J'ai le cœur en dame, 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 je crois en tout ce qui gagne, dame, dame, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, même si j'ai pas la cote, comme ça je me mens.
Eddie Depreto n'a pas encore donné de date pour la sortie de ce nouvel album, mais ouf, il vient d'en dévoiler un premier extrait appelé Bateau Mouche.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau. Début, début, début. Beau. Début, début, début.
De ses débuts, on l'entend dire « Quand j'étais personne, je me rêvais idole ». Dans ce titre, Eddie Depreto se souvient quand, pour gagner sa vie, il chantait sur les péniches parisiennes, 3 fois par semaine. Alors aujourd'hui, il chante dans les salles les plus prestigieuses, les grands festivals. Le voilà donc en haut de l'affiche pour citer « Je me voyais déjà » de Charles Aznavour, à qui Eddie Depreto fait un clin d'œil assez évident dans cette chanson.
J'ai beaucoup été bercé par Charles Aznavour par ma mère. Et c'est drôle parce qu'en 2019, je suis invité au César pour reprendre « Je me voyais déjà » de Aznavour. Et je crois qu'inconsciemment...
Quand vous chantiez sur ces bateaux mouches, vous y voyiez déjà.
En toute modestie.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Eddie Depreto fait aussi partie de ces rares artistes à avoir déjà annoncé une tournée en 2021 des Zéniths. Sur Instagram, il disait « Chanter, danser, crier nous a tellement été volé que je suis prêt à le refaire x 1000 dès l'automne 2021. Le rendez-vous est donc donné et on y croit. Eddie Depreto sera à Bordeaux le 8 octobre, Toulouse le 9, à Lille le 13 et encore plein d'autres.
Vous y serez, François Reinhardt? Vous aimez Eddie Depreto?
Alors, je connais pas bien, mais en tout cas, tout ce que je viens d'entendre de lui m'est sympathique. Et tout ce que j'entends de lui en général m'est très sympathique. Et alors l'autre chose auquel je suis très attaché, c'est ce continuum de la chanson. C'est vachement bien ça. Oui. Ce type qui a, je crois qu'elle agit là 30 ans, 25
oui,
ans.
Une trentaine d'années, ouais.
Et quand il dit j'adore Charles Aznavour, Charles Aznavour lui-même qui aimait traîner, qui lui-même, etc. Ça crée j'aime l'histoire. Et là, dans l'histoire de la chanson, il y a cette chose qui est merveilleuse. Et dans les jeunes générations, j'aime bien chanter avec des gens, je vous disais, ça me plaît toujours de voir des gamins de 18 ans qui connaissent des tubes, des années, qui connaissent Aznavour, qui chantent Emmène-moi au bout de la terre, tout ça. Je trouve ça formidable, ça fait un continuum entre les générations et Edith Préto, voilà. Et puis il y a tout son côté lutte contre le masculinisme, contre le machisme, etc. Dans le rap, je suis très sensible à ça, évidemment.
Angèle Châtelier, merci, vous retrouve très vite. Mais d'abord, on va l'entendre en entier, ce nouveau single Edith Préto.
Et oui, voici Bateau Mouche sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de François Reinhardt, la grande histoire des Nouveaux Mondes, je ne l'ai pas dit, c'est publié chez Fayard. Vous aimez l'humour, François Reinhardt?
Ah, bah oui, j'adore.
Et c'est presque un pléonasme quand on demande ça à François Reinhardt. Je vous présente Louise Bernard. Bonjour Louise.
Bonjour à tous.
Louise. Votre indispensable du jour, Louise, c'est le dernier spectacle de Manu Payet. Il date de 2017, mais on peut le voir ou le revoir sur MyCanal gratuitement toute cette semaine. Son one-man show qui s'appelait Emmanuel.
Comme lui, hein, ouais. Emmanuel Payet, il a décidé de retrouver son vrai prénom pour son retour sur scène après 10 ans d'absence. Emmanuel, qui a un prénom devenu présidentiel entre-temps, donc il avoue surfer là-dessus. Et puis surtout, c'est un prénom pas trop démodé, contrairement aux autres de sa génération, comme Thierry, par exemple.
Ce qui est fou, si on revient 2 secondes sur les Thierry, c'est d'imaginer, pardon les gars, je sais que vous êtes très très nombreux ce soir, mais c'est d'imaginer que les Thierry qu'on connaît aujourd'hui, qui sont nos amis, nos oncles, ont été des bébés. tu t'imagines pas bercer un nourrisson de quelques kilos qui s'appelle Thierry. T'imagines pas faire pleure pas mon petit Thierry. Ça marche pas. T'imagines bercer un gars de 85 kilos. Tenez-lui les pattes, les gars, il chiale pas mon Thierry. Tous ces prénoms-là, vraiment, ça dégage. Chez les filles, je vais le dire, pardon, mais j'ai là aussi une pensée très émue pour les Véro. Là aussi, on va être tranquille, vous n'allez pas rencontrer à la maternité des Bleuets ou je sais pas quoi, une gamine qui va naître, qui va s'appeler Véronique demain matin. Ça, je peux le vous signer sur le papier que vous voulez, ça n'arrivera pas. Si t'es dans la même pièce qu'une personne qui s'appelle Véro, tu peux être sûr que c'est pas un bébé. Tu peux lui taxer une cigarette, ça va.
Il a surtout appelé son spectacle Emmanuel parce qu'il se raconte, hein, pas Manu le personnage public, non, Emmanuel l'intime. Alors il relate son enfance à La Réunion avec ses parents qu'il prend beaucoup de plaisir à imiter, son couple, sa jalousie, et comme tout bon humoriste, en fait à travers lui, il parle surtout des autres, il dépeint des personnages qu'on a tous dans notre entourage quand on ne se reconnaît pas nous-mêmes.
Et alors j'avais vu le spectacle sur scène il y a 3 ans, mais je m'en souviens un tout petit peu, je suis trop content d'entendre cette chose sur les prénoms. Il joue pas tout à fait des personnages sur scène.
Non, en fait c'est pas vraiment ça, c'est pas un spectacle de personnages ni de punchline d'ailleurs. Manu Payet, c'est plutôt un conteur d'histoire, hein, comme un ami avec qui vous partageriez un verre, un ami très drôle. Il peut passer 20 minutes à vous décrire une scène banale, une petite dispute avec sa femme par exemple, mais il vous la raconte avec tellement de détails comiques précis qui sont toujours très bien vus, le tout parsemé de mimes, de petites imitations et de sa playlist musicale. Alors on y trouve des chansons un brin nostalgique quand il se remémore ses premières fêtes à La Réunion, ou bien culte quand il nous emmène dans une de ses soirées parisiennes qui dure jusqu'au bout de la nuit.
Encore un matin pour rien.
Mais plus trop Goldman à 23h. Là, il est 5-6h du mat. Moi, je suis un fou de Goldman, j'adore Goldman, mais je sais que quand ça passe en version live en plus, c'est qu'il est tard. Souvent, chez moi, je fais des intégrales Goldman et il est très tard. Souvent, les voisins, mes voisins, se rendent compte que Goldman, il a fait beaucoup de chansons.
Voilà, extrait bien trop court, mais aucun ne pouvait parfaitement refléter le spectacle, car c'est vraiment dans la longueur qu'il est le plus drôle.
Je confirme.
Emmanuel, voilà, Emmanuel de Manu Payet est à voir gratuitement, donc toute la semaine sur MyCanal. Pour les abonnés, c'est quand vous voulez, ou bien évidemment en DVD ou VOD.
Vous êtes client, François Reinhardt, de ce genre d'humour ?
Ah oui, tout à fait, je suis client de l'humour en général, j'adore ça. J'adore le bon, j'adore le moins bon, j'aime bien.
C'est quoi l'humour moins bon ?
Ben non, mais je veux dire, l'humour, même les grands films, ou les grands films de comiques populaires, les espèces de trucs américains qui font rire tout le monde, ça me fait rire aussi, j'adore ça. Ouais.
Le mystère, on se connaît depuis quelques années, le mystère avec François Reinhardt, c'est comment on peut être quelqu'un d'aussi fin et aimer autant les calembours foireux. J'ai trouvé des titres de papier de l'Obs, tous les doyens sont bons, traité européen, commission impossible, confidence sur l'oreillette ou les bisous de la couronne. Franchement,
alors,
c'est pas de
votre
niveau.
Parce que pendant très longtemps, j'ai fait à l'Obs une chronique que j'ai arrêtée maintenant, mais le principe de cette chronique, c'est toutes les semaines, il y avait un titre en jeu de mots. Donc voilà, parce que c'est un truc de famille, mon père adorait ça, mon grand-père adorait ça. Il y a voilà, le calembour, c'est un truc.
Mais c'est vous qui les trouviez ou c'était le SR, le secrétaire de rédaction ?
En général, c'est moi qui les trouvais. Il y avait des semaines où j'y arrivais pas, mais en général, j'aime bien les jeux de mots. Voilà. C'est le côté canard enchaîné, si vous voulez.
Ouais, ils font ça, mais après, il y a de l'info. Mais vous aussi, il y a de l'info. Merci beaucoup, Louise Bernard. J'ajoute
avec
qu'on
plaisir.
Peut retrouver Manu Payet sur Virgin Radio tous les matins de 9h à 10h pendant que vous en êtes à votre. De 7h, j'ai dit 9h. De 7h à 10h, je pensais à notre émission. Manu Payet sur Virgin Radio, 7h, 10h. Et puis à 9h, vous coupez Manu Payet pour venir écouter Culture Média.
Évidemment.
Merci beaucoup, Louise Bernard. Dans un instant, la dernière partie de notre émission avec François Reinhardt qui est en train de chercher un jeu de mots.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
La grande histoire des Nouveaux Mondes, c'est le dernier livre de François Reinhardt. Il revisite l'histoire, ou plutôt, il raconte l'histoire d'un autre point de vue, de l'histoire de ceux qui étaient en Amérique du Sud ou du Nord et qui ont vu débarquer les conquistadors. J'ai appris grâce à vous que la langue maya était encore parlée en Amérique centrale et au sud du Mexique, grâce à un ouvrage de 2016. Il y a les références, hein. Vous avez vu qui a co-signé l'ouvrage ? Vous avez fait attention ou pas ?
Oui, Jean-Michel Blanquer.
Ministre de l'Éducation,
oui,
c'était un livre sorti en 2016.
C'était ce qu'on appelle un américaniste et un spécialiste de la civilisation. De la culture américaine, oui.
Je vais parler de l'Océanie. Vous écrivez « Des vahinés et des cocotiers sommeillant dans un temps immobile, le cliché est risible ». Pour quelle raison ? Parce que les cocotiers, les plages de sable blanc, ça existe pour de vrai. Et les vahinés, ça a été documenté par des milliers d'écrits de voyageurs, ou je me trompe ?
Oui, bien sûr, mais ce qui nous reste dans l'idée, c'est l'idée d'un paradis. Ah. Et l'idée que quand les Européens sont arrivés, les grands voyageurs, Bougainville, Cook, etc., ils ont le sentiment que c'était un paradis qui était immobile, qui n'avait pas d'histoire. Que ces gens étaient comme ça, au bord des plages et qui étaient là depuis toujours. Et puis l'autre aspect qui est très important dans le fantasme européen là-dessus, c'est la sexualité. C'est l'idée, c'est des endroits où les femmes se donnent et elles sont totalement libres et il n'y a pas de tabou sexuel.
Bien c'était sûr, pas vrai.
Bien sûr qu'elle est.
Parce qu'on imagine Gauguin et c'est.
Alors, tout à fait, mais bien sûr qu'il y avait des tabous sexuels, bien sûr qu'il y avait des interdits sexuels. Le mot tabou lui-même, c'est un mot océanien, c'est un mot qui vient de la culture polynésienne. C'est le navigateur anglais Cook qui l'a ramené. Hein. Et c'est parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, et des choses qu'on ne peut pas faire sous peine de mort. Si vous touchez les cheveux d'un chef, eh ben, par exemple, c'était totalement interdit, et là, vous allez être massacré par la tribu. Et donc, ce monde polynésien, c'était un monde dans lequel il y avait des sociétés avec des rois, des prêtres, des gens qui obéissent, etc. C'est pas du tout des sociétés totalement libres. Et sur le côté sexualité, là, c'était quand Bougainville est arrivé. Bougainville, il est arrivé au XVIIIe siècle avec son équipage, et effectivement, il y avait le truc incroyable qui était les femmes, les vainées, hein, elles se donnaient, elles s'offraient. Donc, évidemment, Bougainville, il fait des pages là-dessus. Je pense que tout le XVIIIe siècle en Europe, quand il a raconté ça dans son voyage de Bougainville, hein, tous les jeunes gens, en tout cas, fantasmaient totalement là-dessus. Ils avaient qu'une envie, c'est d'aller là-bas. Et en fait, il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus en disant, mais pourquoi ces filles se donnaient, etc. Et la réalité est un petit peu différente. C'est qu'un an avant Bougainville, il y avait un autre Anglais qui était arrivé à Tahiti. C'était la première fois qu'il y a un bateau européen qui arrivait. Un an avant. Wallis, il s'appelle, Samuel Wallis. Et Samuel Wallis est là, il découvre cet endroit et tout ça. Et les Polynésiens, les Tahitiens sont très intéressés par les clous, parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de métal. Et donc, ils n'ont pas le sentiment de la propriété. Donc, ils vont sur le bateau, ils volent des clous. Mais pour un Anglais, on a volé des propriétés de la couronne. Donc, il fait donner le canon. Et ça a terrifié les populations. Il y a ce bateau qui arrive avec des gens qui paraissent gentils, qui descendent. Et une semaine plus tard, il donne le canon et il bombarde. Vous imaginez le bateau qui a la puissance, qui a la capacité de donner la foudre. Les populations étaient terrifiées. Et donc, ce qu'on pense maintenant, c'est qu'un an après, quand Bougainville est venu, ces femmes, ces filles tahitiennes, elles ne se donnaient pas. Elles étaient offertes. C'est-à-dire que c'était les hommes
en service commandé
qui les envoyaient devant en disant « va les calmer, donne-toi ». Et donc, c'est quand même très très différent. Hein. Voilà. Et en plus, cette liberté sexuelle, elle s'est arrêtée parce que les missionnaires sont arrivés et là, les missionnaires ont stoppé, au début du XIXe siècle, ils ont stoppé. Il fallait mettre des robes, il fallait être convenable, il fallait plus baiser, etc.
Si je devais faire un papier à la François Reynard, je le titrerais « Des clous et des vis ». J'ai appris des choses grâce à vous. Le terme Polynésie vient du grec nombreuses îles, poly pluriel, j'aurais pu m'en douter, vous allez plus loin. Micronésie, ce sont les toutes petites îles, Marshall, les îles Marianne, micro comme petit. Et la Mélanésie, ce sont les îles noires, comme la Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, la Nouvelle-Calédonie, les Fidji. Et j'ai découvert ça en vous lisant, il y a là un racisme larvé.
Oui, parce que ce grand univers du Pacifique, hein, c'est gigantesque. Et quand les Européens l'ont découvert, ils ont essayé de découper des zones là-dedans. Donc ils ont pensé, en regardant les populations, il y avait toujours l'obsession du 19e siècle pour découper des races et des types, etc. C'était très comme ça. Donc ils ont pensé qu'un Tahitien était très différent d'un Kanak de Nouvelle-Calédonie, par exemple. Parce que le Tahitien, ils ont les cheveux lisses, ils ont la peau plus claire, et les Kanaks, ils ont les cheveux crépus en général, la peau plus sombre. Et en fait, effectivement, il y a eu des peuplements qui étaient différents, qui remontent à la préhistoire. Il y a des peuplements qui étaient différents. Il y a des populations qui sont très, très, très lointainement avant, sorties d'Afrique. Et ensuite, bien plus tard, au 4e millénaire avant Jésus-Christ, des populations qui venaient de Taïwan, en fait, qui ont... Ouais. Voilà. Mais en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que toutes ces populations, au cours des siècles, pour peupler toutes ces îles polynésiennes, elles se sont sans cesse mélangées. Donc, en fait, ces différences n'ont pas grand sens. Mais voilà. On les garde dans la géographie.
Mais dans l'esprit des premiers Européens, les Mélanésiens, ils avaient la peau sombre, et c'était des méchants, des sauvages, des cannibales. On apprend plein de choses. J'ai appris que l'île de Pâques a failli être française avant d'être chilienne. Et j'ai aussi appris que le politiquement correct avait frappé dans la préhistoire. J'ai appris qu'il fallait plus désigner les années comme avant Jésus-Christ, avant JC, mais il faut dire AP.
Alors, c'est pas exactement le politiquement correct. C'est les préhistoriens, ils disent tout ça. En anglais, ils disent BP, hein, before present. Et en français, AP, avant le présent. C'est simplement parce que le compter en...
Mais attendez, juste un mot. Donc, 3000 ans avant JC... C'est ça moins donne... 5020 c'est avant
ça.
AP.
C'est ça. Parce que, en fait, pour la longue préhistoire, quand on est dans le 50 000, etc., enlever 2000 ans, c'est ridicule. Donc, les préhistoriens préfèrent compter en voilà. Mais quand on est dans l'Antiquité, c'est-à-dire les millénaires qui sont avant Jésus-Christ, là, on dit, alors en général, par respect des autres cultures, on dit avant l'ère commune, pour éviter de dire avant Jésus-Christ. Ça, c'est une manière de parler. Mais effectivement, cette datation, bon, moi, j'ai tout le respect qu'on doit avoir pour la religion chrétienne, évidemment, mais l'idée qu'il y a un avant et après dans l'histoire du monde, parce que c'est Jésus-Christ, je vois pas pourquoi un Chinois se plairait à ça, ou un Polynésien se plairait à ça, il y a pas de raison.
D'un mot, il n'y a pas d'illustration dans le livre, c'était un choix économique ou c'était un choix journalistique?
Non, on aurait pu en mettre, j'imagine, mais effectivement, ça, je pense qu'il y a une économie du livre qui est différente, et puis là, j'essaie de faire des livres d'histoire qui soient des récits, donc j'espère que le lecteur est entraîné dedans, et voilà, mais des illustrations, je serais ravi.
Il y a de l'illustration, parce qu'il y a des cartes et des tableaux synoptiques qui montrent les éléments dans le temps, qui montrent que les Mayas n'étaient pas les contemporains des Aztèques, ni des Olmèques, et que c'est beaucoup de civilisations différentes, c'est absolument passionnant. Prochain projet, vous travaillez sur quoi? Vous êtes dans votre pays d'Auge?
Alors là, j'ai pris un congé d'écriture là, de l'Obs, je vais quitter l'Obs pendant quelques mois, et je suis en train de travailler sur une biographie, sur un personnage qui est lié à l'histoire de l'Afrique. Là, je vais m'intéresser, et donc je ne dis pas encore qui est ce personnage, mais j'essaie de faire une biographie subjective, comme on les fait aujourd'hui, de parler de lui et de moi, et du rapport, pourquoi je suis intéressé par un personnage. Début du XXe siècle en Afrique, au Congo.
Merci beaucoup, c'est pas Tintin. Merci beaucoup, François Reinhardt. Je le rappelle, La grande histoire des nouveaux mondes, c'est chez Fayard, ça vient de sortir, et on vous le recommande. Demain, dans Culture Média, nous serons avec le directeur des programmes de TF1, Fabrice Bailly. On va parler avec lui des nouveautés 2021 de la chaîne privée. Et puis l'humoriste Haroun, il sort un ouvrage. Si on ne savait pas que c'était Haroun,
j'adore.
Vous l'adorez, Haroun?
J'adore, c'est un de mon humoriste préféré.
C'est pas vrai?
Ah, mais je vais écouter.
Eh ben, vous allez écouter, et il sort un ouvrage. Mais si on ne savait pas que c'était Haroun, on pourrait croire que c'est l'ouvrage d'un vieux sage grec. Ça s'appelle Les pensées d'Héraclite. Héraclite et Épictète, il a condensé tout ça. L'humoriste préféré de François Reinhardt, c'est Haroun. Il sera demain avec nous. Et juste après le flash, c'est Anne Romanoff et sa bande. Ça s'appelle Ça fait du bien. Je vous dis à demain. Merci encore, François Reinhardt.
Merci Philippe.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.